9h, dans le bureau de Par Jupiter.
Alors, 4 slips.
Qu'est-ce que tu fais, Alex?
Je me prépare pour le discours de Macron. 2 t-shirts, un pyjama.
Mais ça va être si long que ça?
Non, je me prépare pour la suite. D'ailleurs, je vais plutôt mettre 3 slips et un maillot de corps. Parce qu'on va arriver dans l'hiver et...
Non, vous faites quoi, là?
Bah, y a Alex, il compte ses slips.
Ah bon, mais pourquoi il fait ça?
Bah, je sais, parce que Macron, il parle ce soir.
Eh oui,
ah, c'est vrai, ouais. C'est
mais toi aussi, t'as l'air de trouver ça normal?
Bah, bon, oui, moi je lis, tu sais, je lis la combinaison, là.
La combinaison? Mais toi aussi, tu te prépares pour la suite?
Mais ça se voit avec la pile de bouquins qu'elle a derrière. Elle le sent venir, tu
penses? Mais non, bah j'essaie juste de me concentrer sur le livre de notre invité, Félix Lemaitre.
Oui, on est tous en train de préparer notre combinaison. Hashtag troisième dose.
Attends, bien parce que je comprends rien du tout.
Enfin, Guillaume, on sent bien qu'on est reparti pour un tour.
Un tour de quoi?
Mais Manu, hein, les dernières fois qu'il a parlé, c'était radical.
Sérieux?
Ah bah, elle se réveille, l'autre profite bien du livre, parce que c'est peut-être la dernière interview que tu vas faire en présentiel.
Avant 2022.
2023? Bah non, mais non. Allez, laissez-moi, je m'y remets.
Soyez dans le déni, hein, une fois de plus.
Attends, fais voir ton livre là, Charline. Qu'est-ce que c'est? Un premier roman noir incisif qui raconte l'histoire d'un homme en apnée face à l'absurdité et à la brutalité du monde qui l'entoure.
Exactement comme moi, je vais rentrer dans une grande et longue apnée.
Bon bah alors attendez, dans le doute, moi je fais ma valise aussi.
Non mais ça va pas ou quoi? Alex, tu ranges tes slips et tu restes là. Non mais je suis là pour quoi moi? Pour être le réceptacle de vos peurs? Mais qui c'est qui va encore se retrouver toute seule là, à tout faire? Et d'abord, qu'est-ce que vous en savez de ce que Macron il va dire?
Non, calme, Charline, moi je prépare ma retraite. Hein, il a dit qu'il allait parler des retraites dans son discours.
Ah, mais alors, mais on va pas reconfiner alors?
J'en sais rien, moi.
Alex, ça pour ça, là? Bon, allez, silence, hein. Moi, je veux plus vous entendre et je renfile ma combinaison.
La retraite, c'est comme un long confinement dont seule la mort libère vraiment.
Bonjour, la France Inter, et bienvenue dans la fabrique de blagues subventionnées. Voici la devise, s'aimer, c'est regarder ensemble l'allocution présidentielle. Voici le sommaire. Les médias en ligne ont de tout petits budgets, mais un impact considérable sur la société. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, ils contribuent même à des changements politiques et de société. Et la moitié d'entre eux reçoivent des prix de journalisme pour leurs enquêtes et leurs analyses de données.
Mais comment Wikileaks a pu savoir que j'avais traité le président chinois de vieux travelot? Oui, eh ben je dément. Même si c'est vrai.
Les caissières, héroïnes en première ligne, sont en train de se faire dégager par des caisses automatiques qui elles-mêmes sont en train de se faire dégager par un panier intelligent qui scanne tout seul vos achats. Ok, et maintenant qu'est-ce qu'on fait de notre héros du supermarché?
Est-ce que je vais retrouver du travail?
Non, mais tu réussiras à trouver un stage non rémunéré dans le service de la personne.
Le succès des sites porno chez les ados et les enfants est alarmant. Qu'à cela ne tienne, un professeur taïwanais met ses cours de mathématiques en ligne sur Pornhub, car ça fonctionne mieux que sur YouTube.
L'avantage des maths, c'est que ça occupe bien le cerveau. Et comme ça, on ne pense pas à autre chose.
Évidemment. Et justement, à mes côtés aujourd'hui, celui qui fait exactement le contraire, en mettant ses blagues de teub sur l'antenne du service public. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Valenacker. Eh bien, laissez-moi vous présenter la formidable équipe qui nous entoure à 17h20. Chimène Badi a chanté « Je viens du Sud », alors qu'elle dirait plus « Je viens du Nord ». Et ce n'est probablement pas la seule différence entre la chanteuse et Constance.
Bonjour.
Est-ce que vous vous sentez proche de Chimène Badi, Constance?
D'accord.
Ah bon, écoutez, faites-moi un teasing alors, de qualité.
Oui, alors écoutez, moi je vais faire une chronique avec une prise de position, tout à fait.
Wow, d'accord, carrément. On a le droit de faire ça maintenant.
Vous l'entendez, 17h30, celui qui hier a fait sa chronique en duo avec Benoît Hamon. Autant vous dire qu'il y a quelques étudiantes en sociologie qui ont rêvé de se faire tirer les dreadlocks en trisome. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour. Eh bien, anniversaire de sa mort oblige, je vais vous parler du général de Gaulle aujourd'hui, que le peuple de France aime, imiter.
Gauchiste.
Ah, meilleur connu d'ailleurs, le principe.
Et 17h40, quand il s'agit de littérature, c'est elle qui parle. C'est un peu comme quand il s'agit de blagues de top, c'est moi qui parle. Donc la seule fois qu'on pourrait se couper la parole, c'est en parlant de Bukowski. Bonjour Juliette Arnaud.
Et comme je n'aime pas Bukowski, ça n'arrivera pas. Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
De notre invité.
Mais quel coup de bol,
c'est incroyable.
Car voici celui qui va scruter l'horizon de l'actualité. Vous êtes, you are...
Félix Lemaitre.
Ouais. France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek. par Jupiter.
Bienvenue Félix Lemaître.
Bienvenue à moi. Je suis très content d'être dans le temple de l'islamo-gauchisme.
Quand bien compris.
Quand vous avez fait votre prière pour Sandrine Rousseau vers la Mecque, c'était très beau.
Félix Lemaître, vous êtes l'auteur d'un premier roman intitulé « La combinaison » qui est paru aux éditions du Masque. Alors moi j'ai eu un crush pour ce livre parce qu'il a un fond social et une forme très drôle, je dirais limite rigolarde, un petit peu dans l'esprit de ce que vous venez de faire en début d'émission. Et pourtant, Félix Lemaître, tout part d'un fait divers, ce que ici même on pourrait appeler même une brève d'Alex Vizorek, c'est-à-dire...
Ça vous fait mal.
Non, mais c'est-à-dire une... oui, un fait divers, mais relayé par la presse de façon, dans les titres, tragicomique.
Et oui, l'histoire de cet homme qui a fini au tribunal parce qu'il se battait avec sa femme, parce qu'il voulait pas retirer sa combinaison de plongée depuis des semaines. Et c'est vrai que ça prête à rire, et en même temps, j'y ai vu le révélateur de pas mal de choses, et ça m'a trotté dans la tête, et quand on s'est retrouvé en confinement, j'ai décidé d'y revenir. Je pense que c'était le moment de parler de distance sociale et de masque, mais d'une manière détournée.
Voilà. En effet. Vous êtes aussi journaliste, vous êtes rédacteur en chef adjoint à Brain Magazine, et vous avez mené une thèse de sociologie.
Oh là, oui.
Ouais.
Oui.
Vous n'êtes pas arrivé jusqu'au bout, on vous a reproché un manque de style.
Tout à fait. Oui, je m'enflamme un petit peu dans mes textes, et ça plaît pas beaucoup. Dans la science, il faut être très sec et très... très sérieux.
Et ce style, vous le déployez dans ce roman, d'ailleurs, ce qui est très réussi. Mais derrière ces titres drôles de la presse, et celui-là en particulier qui vous a inspiré, qu'on trouve souvent dans la presse régionale ou sur Internet, n'est-ce pas, Alex, vous êtes spécialiste.
Je ne vous donnerai pas toutes mes sources.
Vous êtes donc allé chercher ce qu'il y avait de grave et de drôle,
oui.
Que de grave.
Non, mais je pense que derrière chaque fait divers, il y a un grand roman possible si on s'y attelle. Et oui, j'avais envie de parler de la fin des classes moyennes dans les petites villes, parce que je viens de là, et je pense que c'est pas assez représenté dans la littérature. Donc j'y ai vu ce moyen-là. C'était un révélateur de plein de choses. Une combinaison, c'est le révélateur d'une dépression, cette espèce de seconde peau qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est aussi la société du loisir qui exclut ceux qui peuvent plus le permettre. Donc voilà, j'ai vu tout un symbole. Voilà.
C'est l'histoire d'un animateur de supermarché qui aime plutôt même bien son boulot et puis qui se fait lourder. Et comme il a un petit peu peur de la fin du monde et qui rêve aussi de mer azur, il s'est commandé une combinaison et le jour où il sombre un petit peu dans la dépression parce qu'il s'est fait virer, il porte cette combinaison jour et nuit, il ne la quitte plus sous son costume, etc. Donc oui, on part d'un point de vue absolument absurde. Vous dites je viens de là, alors vous venez d'où, de quel coin de France?
Alors moi je viens de Basse-Normandie, près de Cherbourg, et je me suis confiné en Picardie, donc j'ai laissé traîner mes oreilles, et mes seules sorties c'était au supermarché, forcément. Et donc, je voulais un personnage qui croit au système de manière presque jusqu'à l'absurde. Et donc, j'ai pensé à un animateur de supermarché.
Mmh. Alors, justement, il y a question de classe moyenne qui peut basculer très vite dans la précarité, de ces zones aussi semi-périphériques. Est-ce qu'on est là au croisement des gilets jaunes, du Covid, d'un possible effondrement? Vous qui avez entamé une thèse de sociologie, vous êtes aussi une éponge à tout ça et vous aviez le besoin de l'exprimer?
Oui, ça fait un peu écho aux gilets jaunes parce que il se trouve qu'on trouve, sans spoiler, quand même un cadavre sur un rond-point. Donc c'est aussi ce symbole-là que j'ai mobilisé. Après, c'est pas non plus un brûlot politique, mais oui. J'avais besoin de parler de ça, surtout que pendant le confinement, on avait pas mal de journaux de confinement qui parlaient surtout de la classe bourgeoise, et j'avais envie de faire un contre-pied à
vous
ça.
Vous pensez à qui?
Vous voulez que je dise les noms?
Non, pas du tout. C'est pas le but. Donc, fond social, avec une certaine noirceur, raconté avec beaucoup de drôlerie. Comment est-ce que la forme et le fond se percutent dans le récit, justement? Est-ce que vous êtes dit à certains moments, là je suis trop léger, ou justement j'ai envie d'alléger cette noirceur? Comment est-ce que la forme sert le fond dans ce roman?
Alors après, je vous avoue que je peux pas m'empêcher d'écrire comme ça. Donc je viens de l'école du journalisme numérique, on en parlera. Donc il faut faire court, vif, et voilà, donc j'aime ça. Et je m'inspire beaucoup de des dialogues de films et de mon d'Audiard aussi. C'est, j'ai baigné là-dedans, donc j'ai. Je pense que ça sert bien, oui, d'alléger le fond social, où effectivement, comme Kervern ou Delépine peuvent le faire.
Ça fait partie de vos références.
Voilà.
Vous dites le journalisme est l'école de la punchline, peut-être particulièrement dans le web, et donc clairement, ça influence votre écriture de romancier.
Ah bah oui, pas le choix. Quand on donne des articles à faire qui font très peu de signes, il faut être percutant, et puis surtout les gens en général s'arrêtent au titre et au chapeau, donc il faut tout donner tout de suite.
Bah, pour vous donner une idée du style de Félix Lemaître, je vais me permettre de lire un petit passage.
Lisez.
j'ai pas lu depuis quelque temps, donc j'espère que je vais honorer votre écriture, hein. C'est une introspection du héros qui dit on regarde le héros en disant comment il avait pu ne pas voir qu'il n'était qu'une crotte de nez collée sous la table de l'économie de marché. Comment il avait pu imaginer qu'il avait été autre chose qu'une charge sociale? Alors pourquoi il avait osé envisager cette fille qui avait commandé un demi-pêche au bar de la plage de Coutainville où il était serveur, lui offrir des cornettos à chacun de ses passages, glisser son numéro à l'intérieur de l'emballage métallisé, poser sa main moite sur sa cambrure quand le DJ du camping Les Mouettes avait passé Boombastique de Shaggy, déranger le maire et leur entourage pour authentifier leur bonheur sur un contrat de mariage, se prendre pour un pharaon discount en faisant construire une maison, pensait que se reproduire lui était dû. À quoi il pensait? Qu'on ne change pas une équipe qui perd? Il était à peine digne de manger avec ses dents de faible, de se tenir debout avec son début de scoliose. Foutre Dieu, il s'était encore laissé aller à se fouetter. Se détester autant, c'est encore se donner trop d'importance. Voilà, c'est Félix Lemaître, La combinaison.
C'est drôle, mais c'est pas que gay. Hein.
Ah oui, bien sûr.
On l'a bien compris.
elle a bien lu.
Ah, oui. Ça.
Félix Lemaître est avec nous jusqu'à 18h. On va parler d'informations sur le web, on va parler de supermarchés aussi, de choses réjouissantes aussi.
Et Constance va prendre position.
Absolument.
C'est juste.
Thank you.
le chant de Moudoïd qui dit « Je suis la montagne », c'est sur France Inter. C'est par Jupiter, avec l'auteur d'un premier roman très réussi. Il s'appelle Félix Lemaître. Son roman, c'est « La combinaison ». C'est considéré comme polar. C'est paru aux éditions noir. Du roman Masque. Noir. Ouais, roman noir, on va dire. Juliette, pour l'entourer.
Non, c'est moi qui vais le dire.
Ah oui, non, pardon. Ça, c'est on est faire une suée.
Donc là, j'ai les deux en même temps, et j'ai oui. Juliette et Alex.
On vous observe, on vous observe.
Mais Juliette parlera
du livre. Et Guillaume est là tous les jours, donc ça, ça ne nous perturbe pas. Et Constance, qui a un avis sur tout aujourd'hui, eh ben, elle nous en donnera un tout à l'heure.
Là, j'ai l'impression d'être un trouble et je suis troublée. Voilà, on va passer à l'information.
Dans les premiers jours, je demanderai à mon ministre de l'Intérieur de prendre une circulaire pour que plus personne rentrée clandestinement en France ne puisse jamais avoir le droit à régularisation.
Le journal de presque 17h17.
Je suis Arnaud Montebourg et j'approuve son message.
Et on commence par les titres.
Emmanuel Macron prendra la parole ce soir à 20h. Ce sera la 9e fois depuis le début de la crise sanitaire.
Les discours de Macron à 20h, c'est comme Fast and Furious. J'ai pas aimé les 8 premiers. Il n'y a pas de raison que j'aime le 9e.
D'après les spéculateurs, il pourrait s'exprimer sur la 3e dose pour les plus de 65 ans ainsi que sur la réforme des retraites.
Alors que la vraie solution pour les retraites, ce serait d'interdire la 3e dose aux seniors. C'est une idée, c'est une proposition.
Les brèves, peut-être.
Et oui, là, en revanche, les spéculateurs seraient plutôt pour l'instauration d'une 3e dose de brève. Allez savoir.
Ah bon ?
Oui.
Mais pas de Moderna.
C'est vers ça qu'on va. Commençons par cette nouvelle qui nous a tenus en haleine.
Oui, après 6 mois de mission à bord de la station spatiale internationale Thomas Pesquet à Améry la nuit dernière au large de la Floride.
Eh oui, et ses premiers mots à la sortie de la capsule auraient été alors, qui a remporté le débat de Les Républicains sur SC aurait été. Difficile à dire, mais en mathématiques, là, c'est sûr, c'est Valérie Pécresse qui l'a perdu.
Il y a 5 500 000 fonctionnaires en France. 200 000 postes, c'est 0,5% de l'ensemble. Ça représente moins d'un tiers des fonctionnaires qui partiront à la retraite. Moi, je l'ai fait dans ma région. Dans ma région, j'ai fait 2 milliards
d'économies.
200 000
postes, c'est plutôt 4%, c'est pas 0,5.
Pardon ?
200 000 sur 5 millions, c'est pas 0,5. Enfin bon.
C'est 0,4. Oui, 5,6, 0,4.
Ouais. 200 000 sur 1 million, c'est 20%. 200 000 sur 5 millions, c'est 4%. Enfin bon, on va pas faire des calculs.
Pardon, mais non, mais pardon, 0,5 par an pendant 5 ans.
Voilà. D'accord.
C'est du temps de parole.
D'accord, pas de problème.
De toute évidence, si Valérie Pécresse est présidente, il va falloir qu'elle prenne Cédric Villani comme premier ministre.
Pour les plus vieux d'entre nous, elle nous a fait une krasuki.
Oui.
Tout est dans le d'accord.
Je recommence.
Me tromper dans les chiffres, c'est pas la première fois. On connaît par cœur nos classiques. Allez, on poursuit. Jean Castex et au moins 8 prétendants à l'Élysée se sont rendus aujourd'hui sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Églises pour le 51e anniversaire de sa mort.
Et oui, on n'avait pas vu des gens se disputer à ce point un héritage depuis la disparition de Johnny.
Et dans ce contexte, Nicolas Sarkozy a déclaré « Je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait apprécié ce que M. Zemmour a dit de Pétain. »
Ça, c'est clair. Et je ne suis pas sûr non plus que le général de Gaulle aurait apprécié qu'un de ses successeurs se balade avec un bracelet électronique à la cheville.
Et puis sachez que le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, ne sera pas candidat à la présidentielle.
Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ?
Ouais, on enchaîne. Allez. Médias, 8 femmes accusent Patrick Poivre d'Arvor de violences sexuelles et elles l'accusent toutes à visage découvert dans Libération.
Eh oui, il avait déjà été prouvé que PPD avait plagié la biographie d'Ernest Hemingway. Il semble de plus en plus évident qu'il ait également plagié la biographie d'Harvey Weinstein.
International maintenant, selon le Daily Mail, en marge de la COP26, Joe Biden aurait été victime de flatulence pendant qu'il parlait à la duchesse Camilla Parker Bowles.
Extrêmement gênant. Alors que l'un des gros objectifs de ce sommet, c'était précisément de réduire nos émissions de gaz.
On a même davantage d'informations, car le tabloïd britannique cite une source informée qui précise « Il était long et sonore, impossible à ignorer. »
Voilà, c'est clairement quelqu'un qui a eu vent de l'affaire, j'ai envie de dire.
C'est pas fini. Et cette source ajoute encore, je cite, « Camilla n'arrête pas d'en parler. »
Bref, elle en fait des caisses. Et voilà. Attends, il y a des mecs qui écrivent un roman sur des brefs, moi j'en fais 3 un petit peu comme ça, c'est bien quand même.
N'en faites pas un roman surtout. Allez, culture, 26 trésors pillés à l'Afrique quitteront mercredi le musée du Quai Branly pour être restitués au Bénin.
C'est un moment solennel et ça, espérons-le, que c'est une première étape dans ce processus de réparation que la France a entamé envers les pays qu'elle a spoliés de l'époque coloniale à nos jours et plus précisément jusque 2018. Et on espère tous qu'elle va la rendre, cette Coupe du Monde qu'elle a...
Si, 2018.
Et c'est là qu'on en vient à vos deux prochains romans. Hein, oui. Des brèves.
Moi, j'en ai choisi des biens aujourd'hui.
États-Unis, elle se fait tatouer le prénom de son copain sur tout le dos, 7 jours avant la rupture.
Cette fois, elle va opter pour la gourmette, hein, ça je peux vous dire.
Et la dernière,
le Royaume-Uni est en émoi. Un électricien des hôpitaux reconnaît avoir violé des dizaines de cadavres dans des morgues. Et encore, je pense qu'il y a certaines victimes qui n'ont pas osé dénoncer l'agresseur.
Merci Alex Vizorek.
Ça fait quand même une belle idée de roman.
Le coup du prénom tatoué dans le dos 7 jours avant la rupture, ça pourrait être un bon départ. Ça, je suis d'accord. Merci. Alors, Félix Lemaître, abordons avec vous ce premier thème, et là je m'adresse davantage aux journalistes que vous êtes. Les médias digitaux ont très très peu de moyens, mais un impact considérable sur la société, en tout cas sur 3 continents, qui ont été couverts par une large étude indépendante. Il s'agit de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. Les sites d'info y ont déjà provoqué un changement politique, juridique ou sociétal, et ce malgré le harcèlement, voire le piratage qu'ils subissent. Par ailleurs, ces sites d'information sont régulièrement couronnés de prix de journalisme. Et en France, ça se passe comment ?
Le modèle est simple, hein. Plus il y a de clics, plus il y a de revenus. Mais après, on s'en cache pas, hein. On a toujours été plus intéressé par le prix de l'encart publicitaire que par le prix Albert Londres. Lui là-bas, c'est notre data journaliste. Avec son algo et en fonction des tendances du moment, il nous crée des titres sensationnalistes, mais légalement inattaquables. Alors, on a quoi aujourd'hui ?
Après avoir reçu une dose de vaccin Pfizer, il est victime d'inceste. Bingo.
Festival aujourd'hui. T'as l'extrait de Brout, bien sûr, le sketch de Bertrand Huskla sur Canal+, ici avec Benjamin Tranier. Félix Lemaître, après avoir travaillé sur cette thèse de sociologie, vous avez bifurqué vers le journalisme et particulièrement le journalisme web et vous avez été formé spécifiquement pour le web, c'est ça ? En quoi ça consiste d'être spécifiquement formé pour le web plutôt que la presse papier, la radio, la télé ?
Alors, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle la Street School, faite par Street Press, que vous connaissez peut-être pour avoir révélé des affaires, notamment sur les groupes de policiers qui s'envoyaient des messages racistes. Mmh. Et justement, leur idée, c'était de former des journalistes web, mais qui font pas du Jean-Marc Morandini.com, et de réussir à fidéliser les gens pour qu'ils arrivent à lire des enquêtes plus longues. Donc, on peut faire du journaliste web sans être victime de l'immédiateté, même si effectivement, on nous dit tout de suite qu'avec les algorithmes, il faut que tous les mots-clés soient dans les 4 premières lignes, mettre les idées fortes au début de chaque paragraphe, etc., pour pas perdre les lecteurs. Ouais. Donc c'est vraiment une vraie contrainte permanente. Pour des vidéos, on fait des grands entretiens et on finit par faire des vidéos de 2 minutes, donc effectivement, c'est quand même dommage. Mais voilà, il y a d'autres modèles qui existent, il y a des médias qui font ça très bien. Nous, chez Bren, on fait ça très bien. Nous, c'est un peu comme Par Jupiter, mais en écrit, voilà. Donc c'est un peu moins agaçant, parce qu'il n'y a pas Aymeric Lompré qui rote sa 8-6, voilà. Mais voilà,
il y a des...
Il y a aussi, voilà, ouais. Street Press ou Les Jours qui arrivent à, voilà, mettre ouais. d'autres temporalités par l'enquête. On peut le faire par l'humour, comme vous le faites.
Ouais. Donc cette étude qui nous dit les sites d'information en ligne sur ces continents, en tout cas, et même ici, ont très très peu de moyens, mais peuvent avoir un impact et peuvent malgré tout faire un bon travail. J'imagine que vous allez beaucoup moins sur le terrain, s'il n'y a pas beaucoup de sous, mais...
Alors oui, pour les manques de moyens, je confirme déjà. oui, on a moins le temps de faire du terrain, parce qu'on doit produire tous les jours plusieurs articles par jour, donc c'est vrai que c'est une problématique. Mm-hmm. Nous, on se relaie pour qu'il y en ait toujours un journaliste de garde qui écrive et l'autre qui soit sur le terrain. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est un système pervers. Je vais pas défendre une machine qui est quand même compliqué, basé sur les clics, sur les régies publicitaires comme Webedia et d'autres. Donc oui, effectivement, c'est compliqué. Ouais.
Et aujourd'hui, Brain Magazine est une newsletter payante, c'est ça ? C'est le modèle économique
C'était
actuel.
À la fois pour survivre à la crise et puis aussi parce que vous parlez de harcèlement sur les réseaux. Nous, qui sommes résolument contre la zémorisation des esprits, on avait beaucoup, sur Facebook notamment, des vagues de trolls qui faisaient bannir nos publications. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen de protéger un peu nos journalistes maintenant, voilà.
Félix Lemaître, à côté de vous, votre roman se situe en Picardie, en voilà une du cru, c'est Constance.
Bonjour petit micro, bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mais tu penches, oh, tu penches, tu es triste ou né? Relève la tête petit microphone, tout va bien aller parce que je suis là. Nous allons travailler ensemble, d'accord? Bonjour la table, bonjour le plafond, bonjour. Et c'est qui est content d'accueillir mon petit cucu? C'est la chaise. Mais oui. Pardon, j'ai pris l'habitude de parler à tout ce qui m'entoure, parce que je suis comme ça, moi. Une vraie petite pipelette. Et j'ai des longues conversations sur tous les sujets, avec toutes sortes d'objets, parce que oui, j'aime le dialogue. Par exemple, hier, j'ai eu une grande discussion avec mon Yuka sur la pertinence de poser du jonc de mer dans la salle de bain. Et on n'était pas du tout d'accord, figurez-vous. Parce qu'il a son petit caractère, mon Yuka. Ouh, il sort ses petits picots dès qu'il est contrarié. Mais j'ai pas que des conversations avec les objets. Hein. Je joue aussi beaucoup. Je fais des parties de cache-cache avec mes chaussettes, ou mes clés de voiture. Je me bagarre avec ma housse de couette quand je change les draps du lit. Et il m'arrive même de jouer au roi du silence avec mon escalope de poulet. Mais elle est drôlement forte parce que c'est toujours elle qui gagne. Jeudi prochain, c'est la journée mondiale des célibataires. Et célibataire ne veut pas dire seul. Non, non, heureusement, il existe les chats, les canaris, les fennecs, les sextoys. Et Alexa, la petite voix d'Amazon. Les vilains disent que sous prétexte que c'est une intelligence artificielle, elle n'existe pas. Mais c'est faux ! C'est ma meilleure amie et ma confidente. Elle me connaît mieux que quiconque, regardez. Alexa, trouve-moi un film à regarder ou donne-moi une idée de projet qui me ferait du bien.
Docteur Benamou, rendez-vous liposuction des fesses et cryogénisation des capitons graisseux.
Non, attendez, j'ai mal formulé. Alexa, je voudrais que tu discutes avec moi et que tu m'écoutes, parce que je me sens au fond du trou.
Le fond du trou est un film de Jackie et Michel.
Non, Alexa, arrête, putain, Alexa, va mourir, maudit robot crève.
Préparez vos funérailles grâce au pompes funèbres Gérard Montmalle, 15 rue du cimetière à Vessey-sur-Yvonne.
Non, ta gueule, Alexa, ta gueule, vieille pute.
Vous n'êtes pas très poli, vieille pute toi-même.
Ouais, dis donc. Bon, d'accord, c'est pas encore tout à fait parfait, les algorithmes de compagnie et les compagnons de vie virtuelle. D'accord. Mais faut arrêter les clichés, hein, on n'est pas forcément malheureux quand on est célibataire, parce que moi, on fait ce qu'on veut. Personne n'est là pour te dire, pourquoi tu mets pas de la sauce sur le rôti comme moment, ou alors lâche ce couteau, c'est pas ce que je voulais dire, elle te va très bien cette robe, je t'assure, mais oui, c'est le sèche-linge qui fait tout rétrécir, d'accord. Et surtout, personne pour te dire, un jour je te quitte, ou je ne t'aime plus, ou je te trompe avec ta sœur, mais en fait je suis amoureux de ton père. Non. Et pour trouver le bonheur dans le couple, il faut d'abord trouver le bonheur dans le célibat, et apprendre à vivre avec soi-même, à s'aimer, à se respecter. Parce que si vous ne vous supportez pas, et qu'en croisant notre reflet dans le miroir tous les matins, vous vous dites « Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aimer ?»
Quelqu'un pour m'aimer, maison de retraite à Clou-le-Couvercle.
Va te faire cuire le cul, Alexa, et bon courage avec ce monde de merde. C'est la chute. Ouais.
On espérait qu'elle dise un truc, c'est qu'elle est très marrante.
Elle l'aimait plus que moi.
C'est pas ce que vous voulez dire.
Constance, et toutes nos condoléances au tympan de Nicolas Delmas à la technique aujourd'hui. Merci Constance. Et Constance, ça se revoit en vidéo aussi, hein. Ça je vous l'annonce. Et puis vous sillonnez la France à bord de la Kangoo. Bientôt, Constance, vous ferez un stop à Metz ce dimanche, 14 novembre. Ensuite, vous irez à Dijon le vendredi 19 et à Clermont-Ferrand le lendemain, 20 novembre. Je rappelle, votre spectacle s'appelle Pot pourri.
esperna, vuestro paraplana.
Chante à la Vrostikiotis. À la Vrostikiotis. Voilà. Bon, ben vous irez chercher. Vous demanderez à Alexa. Via Constance. Nous recevons Félix Lemaître, La Combinaison. C'est son roman noir paru aux éditions du Masque. Vos collègues ont été étonnés de vous lire sous cette.
Oui, je suis un peu timide, du coup, c'était une révélation. Maintenant, ils ont peur de me parler.
Juliette Arnaud va y revenir dans un instant. Mais avant cela, nous allons écouter Guillaume Meurice.
Oui, et je vais vous parler du général de Gaulle. Aujourd'hui, un ancien collègue à nous, qui avait fait bien le buzz à l'époque avec sa chronique sur la France libre. C'est vrai, rappelez-vous, il avait montré ses seins. Non, je confonds avec Constance, je pense. Enfin, en tout cas, il avait bien cartonné au point d'après avoir carrément fait une carrière politique. Il est devenu président, il a rencontré les plus grands chefs d'État, alors que vous, avec vos chroniques, Alex, bon, bah, si vous faites la pétanque célébrité.
Oui, oui.
Voilà, oui. Disons que Bernard Montiel est votre Eisenhower. Hein, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et aujourd'hui, le général de Gaulle, il est récupéré par quasi tous les candidats. Ils sont sur sa tombe aujourd'hui pour l'anniversaire de sa mort, pour faire des selfies avec son fantôme. Mais Anne Hidalgo est là-bas, alors que Paris, clairement, elle l'a martyrisé. Bien sûr, les amateurs d'imitation se régalent. On récupère les auditeurs d'RTL, on est avec vous les gars. Mais qu'est-ce qui reste du général de Gaulle dans le peuple de France? Eh bien, je suis allé lui demander ce matin, figurez-vous.
Une certaine idée de la France, c'est, je crois, une volonté d'exister.
Mais c'est quoi alors une certaine idée de la France?
C'était une volonté d'avoir des projets nationaux comme le Concorde, comme le...
Bah, le Concorde, ça n'a pas très bien fini cette histoire.
Oui, parce que ça a été dynamité par les Américains.
Surtout, il y a eu un crash, non?
Ah, mais ça, c'est autre chose, ça, c'est un détail.
C'est un détail. Le crash du Concorde, c'est juste un problème de GPS. Le pilote avait rentré à l'hôtel à Gonesse, paf, ils sont arrivés plus vite que prévu. Mais vraiment, vraiment, on regrette cet avion qui permettait de trimballer des milliardaires en cramant autant de litres de kérosène à la seconde qu'il y a de fils qui se touchent dans la tête d'Arnaud Montebourg. D'ailleurs, qui pourrait être le futur de Gaulle?
Montebourg? Oui, il a eu des propos dignes, je pense.
Sur les immigrés, là, ouais.
Parce qu'on se fait tout de suite, là, les jeunes bobos, nous disent « Oh, il a dit quelque chose !»
Ah, il a dit des propositions d'extrême droite, quoi.
Ça veut rien dire, ça, c'est une réaction. Je dis, Montebourg, il a eu une réaction saine.
Oui, c'est une réaction saine qu'il a eue, Arnaud Montebourg. Saine parce que, bah, déjà, ça nous a permis d'apprendre l'existence des jeunes avec Montebourg. Qui, en entendant ça, bah, voilà, sont partis boudés dans leur chambre, menaçant même d'une alliance avec les vieux, avec Stéphane Le Foll. Voilà, vraiment, ça a été très très loin, cette histoire. Mais le sujet n'est pas la mort cérébrale de la gauche. Restons focus sur le nouveau général de Gaulle qui pourrait être...
Barnier, Michel Barnier.
Ah, Michel Barnier, ça,
oui,
sera...
Bon, vrai... Je pense qu'il a les mêmes propos que lui, à peu près, les mêmes...
Qu'est-ce qu'il dit alors de pareil que le général de Gaulle?
Grand de taille, comme ça.
Physiquement,
il ressemble. Oui, franchement, il lui ressemble.
Il lui ressemble, oui, c'est pareil. Il dit exactement la même chose au niveau de sa taille. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a Yannick Jadot aussi, si on va par là. Et il y a moi aussi. Et là, ben voilà, s'il faut juste un physique d'asperge et un grand nez pour être le nouveau de Gaulle, hein, pour être l'héritier, ben moi, je veux bien récupérer le service à vaisselle. Tout le monde se dit gaulliste, il n'y a pas de raison. Même Zemmour se dit gaulliste. Alors, est-ce qu'il l'est?
Oui, moi, je pense qu'il est gaulliste.
Ouais, mais est-ce qu'on peut être gaulliste et dire que Pétain a sauvé des Juifs, par exemple?
Non, mais c'est vrai.
Ah, c'est vrai, ça, hein?
Oui. D'après le... Bon, j'écoute à la télé, hein, ce qu'ils disent. Voilà.
Eh oui. Bah, sur quelle télé, alors?
CNews, je regarde beaucoup.
Je ne m'y attendais pas du tout. Alors là, la surprise est totale. Je me disais, où est-ce qu'il a bien pu entendre ça? CNews. Bah, CNews, ils disent tellement de la merde qu'ils doivent avoir des hémorroïdes au cerveau, à force. Je pense c'est vraiment intéressant, même, je trouve, au niveau anatomique. Mais bon, puisqu'on en est là, voilà, parlons de Pétain.
Oh, mais alors Pétain, il a signé un armistice. Bon, c'est vrai,
Mais c'était peut-être, ça partait peut-être d'un bon sentiment de penser que si signait l'armistice, ça voulait dire qu'il sauvait la vie de voilà, parce que les guerres, faut voir un petit peu ce que ça a donné. Donc.
Mais il était maladroit, quoi.
Je ne sais pas.
Non, on ne sait pas. Faudrait voir ça, faudrait étudier vraiment la question. On ne sait pas. En tout cas, Pétain, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le conflit. Voilà, donc il a signé le truc. Mais c'est pas un mauvais gars, hein, Philippe, à la base. Hein. C'est vrai, la rafle du Veldiv, c'est parce qu'il est fan de vélo, en fait. Et donc, il pensait que c'était une compète cycliste. Et il a dit, ah, ben, faites ce que vous voulez, je vous prête le lieu. Voilà, c'est les petites histoires qui font la grande histoire. Alors, est-ce que Zemmour est vraiment gaulliste?
Oui, par rapport à l'esprit que de Gaulle avait de la France, oui, certainement. Alors, Monsieur Zemmour, il dit des choses que tout le monde pense et que personne n'ose dire.
Est-ce que le général de Gaulle aurait voulu changer les prénoms des gens?
C'était, mais bien sûr. Il y en a qui veulent appeler leur fille Clitoris, par exemple.
Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je crois que quand dans une chronique sur De Gaulle, on parle de clitoris, on a fait le tour de la question. On a fait le tour de la vie, même, je pense, carrément. Donc, message aux candidats, quand même. On vous voit, hein, que vous essayez d'endosser un costume qui est trop grand pour vous. On vous voit, hein, vous faites de la récupération de cadavres. En gros, on vous a compris.
Ah, magnifique. Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci Guillaume.
Et merci les gens.
Et les gens. Bien les sûr. Gens, c'est formidable. Félix Lemaître, on poursuit avec vous et ce thème qui nous ramène à votre roman. Dans les supermarchés, on a commencé par virer les animateurs de rayons, puis des responsables de rayons et puis les caissières aussi. Et maintenant, même les caisses automatiques vont se faire virer. Une chaîne de supermarchés teste discrètement, paraît-il, à Paris, le panier intelligent qui scanne ce que vous mettez dedans grâce à une petite caméra incrustée dans la poignée et qui reconnaît les produits. Adieu Mireille, notre héroïne en première ligne de la caisse 5.
Et même à la fermeture des magasins, il y a encore du boulot. Hein. Maintenant, je dois remplir tous ces rayons. Mais je le fais de bon cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que bientôt, dans les livres d'histoire, la grande histoire, il y aura un chapitre sur les caissières. Les caissières qui ont continué à nourrir leur pays sans jamais se plaindre, comme des vraies héroïnes des temps modernes. Et bon, là tout de suite, j'en ai plein le cul.
Il date du confinement, vous vous en doutez, ce sketch dans le magazine 52 minutes chez nos confrères de la RTS en Suisse. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France. Cette chaîne de supermarchés qui teste, je cite Le Parisien, discrètement, les paniers intelligents, ils appellent ça des courses autonomes, comme si quand on faisait nos courses, on n'était pas autonome, c'est fabuleux. Alors, en plus, Auchan...
On sent que vous êtes contre.
J'adore ça. J'adore l'innovation. Auchan fait les mêmes tests dans le Nord. Et justement, votre roman situé en Picardie, ça rappelle furieusement le point de départ de votre roman où le héros est animateur de supermarché et se fait lourder. Donc, il va en falloir beaucoup des combinaisons pour toutes ces caissières. C'est-à-dire, le récit que vous racontez, il va ruisseler sur les gens pendant un moment, là.
Oui, je pense. Moi, je suis très triste. En plus, j'ai une passion supermarché. Je suis un voyeur de tapis roulants, ce que j'aime imaginer les vies derrière les produits. Donc, je regarde ce que prennent les gens. Mm-hmm. Donc là, chacun va être à sa petite caisse et je pourrais plus faire ça. Et oui, je suis très attristé par cette disparition des caissières. Surtout que certains disent ça va être la disparition de la pénibilité. Puis il y aura d'autres boulots précaires, j'imagine, autour de la maintenance ou d'autres choses. Donc, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mm-hmm. Ça va juste mettre des gens au chômage. Ouais. Mais après, qu'est-ce qu'il faut attendre d'un pays où l'État était grand remplacé par des numéros verts? Voilà. Je pense que c'est dans la suite des choses, quoi.
Ah oui. Oui, vous aimez la punchline, hein, ça se sent. La vitesse avec laquelle on se renie vous étonne encore? Ou justement, ici, dans ce roman, vous rendez aussi hommage à ces gens qui étaient en première ligne, qui étaient nos héros, qu'on applaudissait pendant le premier confinement, et aujourd'hui qu'on remplace allègrement par même pas des caisses automatiques, par des paniers intelligents. Donc,
jusqu'à la caisse automatique, vous suivez. Mais après, c'est long.
Pardon ?
Jusqu'à la caisse automatique, vous voulez bien aller ?
Non, même pas.
Non plus. C'est parce que j'étais surprise.
Vous boycottez, vous, les caisses automatiques ou pas ?
J'essaye, mais des fois je craque quand il y a...
Mais pourquoi vous craquez?
J'ai honte.
Charline.
Mais est-ce qu'on est fatigué, Charline? Ben justement, mais c'est comme ça qu'ils nous auront. Mais enfin.
Oui, vous avez raison.
Non, parce que tout ça va arriver avec l'assentiment de la population. De vous, Juliette Arnaud, de vous, Félix. Oui.
Je me repens, pardon.
Ceci dit, c'est un des métiers les plus pénibles du monde. Hein. Caissier, caissière, c'est vraiment... C'est l'enfer. Quoi.
Oui, mais si c'est pour devenir livreur à vélo, qu'est-ce qu'on
fait? Non, mais attention, parce que moi, je suis pour le revenu universel. Donc,
oui, bah, moi aussi, voilà, donc...
Il a croisé Benoît Hamon 5 minutes, quoi.
Mais ce sont des choses que vous scrutez de près, en tant que quoi, sociologue, un petit peu, en tant que journaliste.
Oui, oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites mains du capitalisme. J'ai un souvenir ému quand j'ai travaillé à l'usine, quand j'étais jeune, des gens qui étaient dans les, on travaillait dans l'agroalimentaire, et des gens qui faisaient les lignes pour les plats préparés, Wet Watchers, et qui étaient très fiers de ça. Et je pense qu'ils sont plus fiers de leurs produits que les grands patrons. Donc, il y a quelque chose de touchant et d'assez cynique là-dedans.
Ouais. C'est quelque chose auquel vous avez touché donc dans votre jeunesse.
Voilà.
C'est ce métier-là. Donc vous êtes bien placé pour en parler, Félix Lemaître. Juliette Arnoux, vous avez lu La Combinaison?
Oui. Oui, et c'est l'histoire d'un mec, Christian, oui, qui, suite à son licenciement, ne se sent plus qu'un être humain en dessous de la moyenne. Alors rien de bien grave au point de vue arithmétique. En effet, pour qu'il y ait moyenne, il faut des valeurs au-dessus et des valeurs en dessous. Sauf que personne n'a envie de penser à soi en se concevant comme valeur en dessous, c'est-à-dire du mauvais côté de la fracture sociale. Oui, je cite du Jacques Chirac 1995 et du Coluche dans le même paragraphe. J'ai une excellente mémoire et je suis une vieille personne. Avant, même s'il n'était que dans la moyenne, Christian, il s'en arrangeait. Il rêvait des vacances aux Antilles pendant lesquelles un jour, il emmènerait sa famille faire de la plongée. Quand il avait encore son boulot, Christian, il était pugnace. Son fils disait de lui avec fierté « Mon papa, c'est le plus fort, il vendra un 4x4 à un labrador ». À présent, Christian, il se sent, et je vous cite, « nu et affligé ». Affligé, c'est un bien joli mot, bien musical, mais qui traduit vraiment à minima l'état dépressif dans lequel Christian commence à patauger. Affligé et nu, la pugnacité qui a mis les bouts aux grandes dames de son énergie, qui épouse Claire, au grand désarroi de son fils unique Clovis, qui comme souvent, et Charline en sait quelque chose, les enfants uniques, se sent obligé de jouer les casques bleus du couple parental.
Oui. Ah,
c'est...
Oui,
pareil pour moi.
Oui, oui. Ah oui, aussi. Ah bah oui, voilà. Non, mais poursuivez.
C'est très gênant.
Affligé et nu, alors Christian va faire tout ce qu'on fait tous dans ces cas-là, il va développer une stratégie. Et c'est là que ça devient cocasse. Plutôt que de se concentrer sur affligé, il va se concentrer sur nu et enfiler une combinaison de plongée. Mais genre, tous les jours, tout le temps. Ce qui fait qu'assez rapidement, le français moyen qu'est Christian va quitter aux yeux des autres la moyenne psychique de la population française pour atterrir dans la catégorie zinzin.
C'est ça.
Aux yeux des autres, parce que lui, Christian, ça lui va. Lui qui sent tout sombrer autour de lui se sait à l'abri dans sa combinaison invincible, un peu comme n'importe quel super-héros. Bref, un peu comme Thomas Pesquet, ni plus ni moins. Et bah oui, il est en combi. Hein. Et personne ne rit. Et si vous étiez de penser, ah bah après tout, Christian il fait bien comme il veut, hein. Si c'est le néoprène qu'il préfère, foutez-lui la paix. Après tout, il y en a d'autres qui dansent et chantent en petite culotte dans leur chambre en se prenant pour Madonna, c'est pas moi, c'est une amie. Chacun fait comme il peut, ok. Sauf que même à Saint-Fossé, la ville de Christian, ville moyenne et lugubre, on est quand même en 2021. Alors il y a toujours quelqu'un prêt à filmer avec son téléphone si ton père se trimballe en pleine nuit, son corps vieillissant, petite canne et ventre qui pointe, emballé dans sa combi. Oui, vous avez remarqué, on a changé d'axe. On n'est plus avec Christian dans sa combi. On est dans la tête de son collégien de fils qui assiste au naufrage de son père sur TikTok. Ce papa qu'il voyait fort et malin. Ce papa animé parfois, et je vous cite, Félix, de douce malice. Ce père qu'en bon casque bleu, il essayait de remonter en lui fabriquant un profil LinkedIn, faire une belle photo et pour ça peigner les cheveux de son papa en arrière. Son père donc est devenu un sujet de plaisanterie chez les plus jeunes. Et je vous cite, de la pâte à modeler pour la nurserie mondiale. Comme si être au collège n'était déjà pas une putain de tannée en soi. Clovis se mange une crise oedipienne magistrale avec un père radicalisé, confondant les grands fonds sous-marins et la mare de la forêt d'à côté, et dont la combi ridicule mais inoffensive réveille les instincts beaucoup moins inoffensifs de certains des habitants de la bien nommée ville de Saint-Fossé. Christian, qui ne voulait en vérité qu'une chose, mettre un peu de distance sociale entre lui et le monde, va se retrouver à être au plus près des autres. L'ironie de la vie est décidément bien ironique. Telle est l'aide-hurloi du roman noir. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnoux, merci beaucoup. Effectivement, mélange de satire sociale avec de l'humour absurde, on aime beaucoup. Ça s'appelle La Combinaison, paru aux éditions du Masque.
Enfin, je réitère, moi personnellement, je ne trouve pas ça absurde.
Ah oui.
Ce que fait Christian, voilà. Je le dis. Moi, je me suis beaucoup. Je comprends cette personne.
Ouais, on s'identifie aussi, c'est vrai. Félix Lemaître, poursuivons avec ce thème que vous avez choisi. Chacun sait que Pornhub dispense des cours d'anatomie. Alex me confiait récemment qu'il y prenait. Alex me confiait récemment qu'il y apprenait l'anglais grâce au nom de catégorie. Désormais, on peut aussi suivre des cours de mathématiques. Un professeur de Taïwan poste ses cours de maths sur le site pornographique afin d'intéresser les élèves. Il est pour l'instant le seul individu à proposer des maths en gardant ses vêtements. La frontière est poreuse, je dirais, entre le savoir et la pornographie.
Consonne ou voyelle ?
Consonne.
S.
Consonne.
G.
Voyelle.
U.
Voyelle.
E.
Consonne.
C.
Voyelle.
A.
Consonne.
N.
Voyelle.
E.
Et consonne.
L. Adric Van Damme ?
9 lettres. Avec enculage au pluriel.
Enculage.
Oui, des mouches exclusivement.
Quelle indignité sur le service public, car il s'agit des chiffres et des lettres, mesdames et messieurs. Dites donc. Alors, Félix Lemaître, comment êtes-vous tombé sur cette information directement via YouPorn? Comment ça se passe?
Ça m'a touché parce que j'ai été prof à la fac. Et j'avais un élève qui était plus intéressé par les gangbangs amateurs allemands que par la sociologie. Donc,
un seul élève.
Un seul, ou que j'ai grillé.
Ah, vous l'avez grillé en cours.
Donc, je me suis dit, oui, à cet âge-là, comment rediriger la libido vers le désir d'apprendre? Pourquoi pas ça? Après, ça peut être traumatisant, j'imagine, de découvrir son prof de maths quand on a le pinceau à la main, peut-être que c'est comme voir sa mamie, penser à sa mamie pendant le coït. C'est peut-être dangereux, mais...
Ah oui, d'accord. Parce que derrière cette information, on va dire insolite, quand même, qui touche un professeur à Taïwan, il y en a peut-être d'autres, mais il y a toujours un fond de gravité, quand même, parce que la proportion d'enfants qui se retrouvent devant des vidéos à caractère pornographique est inquiétant. Ça faisait la une des journaux encore hier. Et là encore, on est dans une information qui est tragicomique, c'est drôle, mais c'est grave.
Oui. Pardon.
Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Mais c'est-à-dire, cette information, elle a attiré votre attention aussi par des formations professionnelles, journaliste web ou sociologue, ou c'est ce genre d'info qui fait du clic et puis derrière qui développe quelque chose.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de profond derrière, à la fois de la crise pédagogique ou. Moi, je suis un peu triste pour les profs qui rivalisent d'inventivité, qui sont pas soutenus par Jean-Michel. Donc, voilà, c'est surtout ça qui me peine, qu'ils en soient arrivés à chercher tous les moyens possibles pour attirer l'attention.
C'est-à-dire qu'il faut être créatif aujourd'hui quand on est prof?
Oui. J'ai des collègues qui font du rap, qui montent des films. Je vous imaginez même pas ce qu'ils sont obligés de faire.
L'attention des jeunes étant peut-être réduite par l'utilisation des GAFA, les professeurs en payent le prix aussi.
C'est ça, ils ont une attention fragmentée qui... Ouais.
D'où l'utilisation des GAFA.
Voilà.
Et de Pornhub. Et la boucle est bouclée. D'accord, je vois très bien pourquoi vous avez choisi le sujet. Je comprends mieux. Félix Lemaître, il y a Alex Vizorek qui vous a préparé un questionnaire de Parjupi-Proust.
Parjupi-Proust, spécial brève, évidemment. Ah, bien sûr. Sur l'échelle de 0 à 10 du ivre virgule. 0 étant moi en ce moment. 10 étant Elisabeth Lévy en ce moment. À combien placez-vous la brève du type qui s'habille en combinaison de plongée?
Ah, 0 sur 10. C'est quelqu'un de très sobre.
En toute bonne...
Lucide.
Voilà. Si vous deviez écrire un roman à partir d'une autre brève, ce serait celle de Ivre mort, il participe à sa propre recherche dans les bois, ou un chat met le feu à ses croquettes.
Les deux sont vrais.
Moi, j'aurais aimé faire sur celui qui a pété dans un spa et qui s'est fait embarquer par la police.
Tout à fait. Voilà, c'est peut-être mon seul adversaire en matière de rêve. Quel candidat à la présidentielle pourrait faire comme ce candidat à gouverneur de Californie, faire campagne en étant accompagné d'un ours de 500 kilos?
Mon Dieu, Xavier Bertrand.
Ah, c'est le physique qui a joué. À quelle personnalité souhaitez-vous cette brève? Espagne, après une dispute, il creuse un trou pour vivre sous terre dans le jardin.
Eh ben, je pense que ce serait bien pour Arnaud Montebourg. La remontada.
La remontada dans le jardin. Pour voir si vous êtes très fort en brève, est-ce que celle-ci est vraie? Ivre virgule, les chroniqueurs de l'émission Par Jupiter de France Inter sèment la pagaille dans un TGV.
C'est vrai, j'imagine, ouais, forcément.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et la leader est autour de la table et s'énerve quand j'en parle.
C'est pas moi, c'est pas moi.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Et vous n'étiez pas ivre.
C'est bien ça le pire.
Alors, Karine,
avec quel personnage de Brève aimeriez-vous discuter? Poursuivi par la police, des jumeaux échangent leur place dans la voiture alors qu'ils ont le même taux d'alcoolémie. Ou Indonésie, il épouse son cuiseur à riz avant de divorcer quelques jours après.
Ah oui, celui qui épouse son autocuiseur.
Oui, je pense que ça fait un beau roman.
J'ignorais que les Brèves traçaient un tel horizon.
Ouais, oui.
Un horizon romanesque d'ailleurs, grâce à Félix Lemaître, qui publie donc La Combinaison, roman noir, paru aux éditions du Masque. Et vous avez compris qu'on vous le recommande. Et vous n'êtes pas à l'abri de vous poiler en plus. Merci beaucoup Félix Lemaître.
Merci.
Merci à toutes et à tous. Merci Constance, Juliette Arnaud, Alex et Guillaume. Je vous dis à demain pour une séance de parjupiclasse que nous espérons en présentiel puisque le président s'exprime ce soir.
Moi, je vais me préparer au pire. Vous devriez faire pareil.